c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saintonge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et voilà, au sommaire de ce numéro ensoleillé qui vous attend depuis les héros du cinéma du Cap d'Agde aujourd'hui. On vous a concocté une émission de fou avec tout plein d'artistes qui vont venir se succéder. Et l'événement aujourd'hui, ça va être Jean Becker qui va venir nous rejoindre à l'occasion de la sortie VOD et DVD du film Les Volets Verts. C'est un monument du cinéma français que nous allons recevoir dans un instant. Chris Naon également, il avait réalisé L'Empire des Loups ou encore tout simplement Le Baiser Mortel du Dragon et réalise également sur la série Ainsi Grand Soleil. Aujourd'hui, Chris Naon sera notre invité pour nous parler d'un festival qui démarre demain du côté de Montpellier. Et puis on aura également le plaisir de recevoir Boudère aujourd'hui. Le héros du film Le Grand Cirque sera notre invité pour parler également de la sortie DVD et VOD du film. Bernard Lecoq viendra nous parler de Cœur de Rocker également, qui vient de sortir aussi en VOD et en DVD. Et puis autre monument du cinéma français, Hervé Palu, le réalisateur de Un Indien dans la Ville, va venir nous rejoindre accompagné de Bruno Moineau qui jouait dans Les Bronzés. Et puis événement aussi, c'était son grand retour vendredi dans Demain nous appartient. Juliette Trezanini alias Sandrine Lazari fait son retour dans la série. Qu'en est-il? On en parle avec elle dans cette émission.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Émission spéciale festival, qui dit émission spéciale festival, dit invité d'honneur du festival. Jean Becker est avec nous, un monument du cinéma français. Jean, merci d'être avec nous.
Bah écoutez, merci de dire tout ça. Un monument, je sais pas si c'est un monument, mais le cinéma est une prolongation pour moi de toute l'œuvre de mon père. C'est-à-dire, je pense que j'ai été un bon élève avec lui et j'ai fait quelques films, dont le dernier, là,
Les Volets Verts.
Voilà.
Très sur les films dont on va parler évidemment dans quelques instants. Vous avez bercé toute une génération, dont la mienne, avec votre cinéma. Je pense à Elisa, je vais penser à Un Crime au Paradis, je pense bien sûr à tous ces films où on a pu voir réalisé par Jean Becker, un film de Jean Becker quand on était au cinéma. Vous avez bercé des générations entières, vous en êtes conscient de ça?
Oh, écoutez, moi j'ai fait mon petit boulot dans mon petit coin, hein. Je suis pas conscient de ça. La seule chose dont je suis conscient, c'est que je crois que quand même j'ai attaché un public, je pense assez large sur les films que j'ai pu faire. Donc moi je travaille pour le public, hein. Voilà.
Les Volets Verts, c'est un film qui est sorti en août dernier, qu'on peut maintenant voir en VOD et en DVD. C'est votre nouveau film avec notamment Gérard Depardieu et la magnifique Stéphie Selma, aussi qu'on adore dans la série 10%, et que là on retrouve dans ce film, qui est absolument lumineuse également.
Stéphie, elle est formidable. Ben, y a Benoît qui est magnifique, et qui a fait l'abnégation de tourner un rôle où il sert un peu la soupe à Gérard. Il faut être un grand acteur pour avoir ce genre d'attitude. Il a été formidable et d'une grande gentillesse, très amical. Voilà. Et il y a aussi évidemment une grande amie de Gérard,
Fanny Ardant.
Fanny Ardant qui est toujours excellente et qui nous a beaucoup apporté dans ce film. Voilà.
Là, on y suit le parcours d'un comédien un peu en fin de course. Il a pu cette envie, sans que voilà, il est au bout de ce qu'il pouvait peut-être donner. Et puis jusqu'au moment, il va trouver du réconfort en quelque sorte.
Ben, surtout, il a un petit peu la chandelle par les deux bouts. Alors, il a des séquelles au niveau physique. Et un médecin lui apprend qu'il est mal barré, quoi, quand même, par rapport à tout ça. Et lui s'en rend compte. Et comme il dit, à un moment donné, il est un peu obligé de se... Il y a un titre d'un film qui s'appelait Un ange. Un homme se penche sur son passé. Ben, c'est à un moment donné, il est un peu dans cette position. Et voilà, je n'ai pas raconté la fin du film, évidemment.
On va essayer aux gens justement de la découvrir, mais le personnage de Sophie Selma, en tout cas, va peut-être lui amener justement cette façon de se pencher sur son passé de façon plutôt belle.
Oh, Stéphie, elle n'a pas besoin de ça. Elle a fait des tas de choses et elle en fera encore beaucoup d'autres.
Oh oui.
Ça a été quelqu'un, une partenaire formidable et on s'est bien entendu tous les deux. Et je crois qu'elle a tout à fait bien compris le personnage qu'elle interprétait.
Je pense que pour une jeune comédienne comme elle, tourner avec Jean Becker, ça a dû être quand même quelque chose. Vous avez fait combien de films avec Gérard Depardieu ?
Ça fait trois films. Le premier, ça a été Elisa avec La Petite Paradis. Le deuxième, c'est
La tête en friche
avec cette magnifique petite dame
centenaire, Gisèle Casadesus.
C'est un joli film, je crois. Une amitié très forte en justement un homme qui est un petit peu dont on se moque un peu pour son manque d'éducation. On pense qu'il est un peu niais alors qu'il ne l'est pas du tout. Et justement, Gisèle le pense sur sa coupe, lui explique, lui raconte des livres, etc. Et c'est très touchant. Voilà.
Et puis les volets verts que vous pouvez vous procurer en DVD, en VOD. Quelles sont vos envies maintenant ? Raccrochez ou pas ?
Bah, j'ai encore un sujet que j'essaye de monter. J'ai beaucoup de mal, je veux dire. C'est pas le sujet, c'est le fait que aussi quand même, malgré tout, j'ai 90 ans, donc les producteurs se tâtent un peu et se disent voilà, attention. Mais je vais finir par le trouver. Je vais finir par y arriver.
J'en suis sûr, en tout cas, on suivra tout ça. Moi, je suis très fier, en tout cas, de vous avoir ces quelques minutes avec nous. Ici, au Héros du Cinéma, vous êtes venu faire une halte pendant quelques jours. Et vous avez reçu un joli prix, en plus, hein, je crois, un Césarion.
Un Césarion, oui. Je me suis amusé sur la scène, d'ailleurs. Parce que ce Césarion, bizarrement, m'a fait passer au mannequin de Pise. Alors, j'ai fait un petit... Tiens, il lui manque un truc. Non, il est très joli, c'est une petite statue, et je suis ravi de l'avoir qui m'est offert ça pour mes 90 ans, parce que je les ai au mois de mai.
Ouais, et puis la carrière, cette immense carrière, en tout cas, vous saluerez également Louis, votre fils, qu'on a toujours eu plaisir, en tout cas, à défendre ses films aussi, et qui est venu tourner d'ailleurs dans notre région de Nouvelle-Aquitaine il y a quelques années. Voilà, on l'embrasse très fort aussi.
Eh ben oui, et moi aussi j'embrasse mon fils.
Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci à vous.
Attitude. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Spécial les héros du cinéma. On va continuer évidemment cette spéciale avec des personnes qui vous parlent tous, hein, évidemment au cinéma avec Hervé Palude. Hervé, c'est le réalisateur d'Un Indien dans la ville, alors que Sexygénaire vient de sortir au cinéma et a fêté ses retrouvailles entre Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Un Indien dans la ville reste dans toutes nos mémoires. Merci d'être avec nous, Hervé.
Ben écoutez, merci à vous et puis je souhaite à ce festival qui a déjà 20 ans, d'avoir encore 20 ans de plus.
Et d'y revenir du coup, Hervé. Mais il n'est pas venu tout ça, Hervé, parce qu'il est venu avec Bruno Moineau. Alors évidemment, Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure. Enfin, tout le monde se souvient de toutes ces scènes d'anthologie et de cette bande du Splendide qui nous fait tant rire, évidemment. Bonjour Bruno et merci d'être là aussi.
Ah ben, moi je suis très content d'être là, donc merci au festival de m'avoir invité.
Bon, alors tous les deux, on parle cinéma, évidemment, c'est un festival de cinéma. Hervé, on va commencer par Un Indien dans la ville et pour évoquer peut-être ses souvenirs, ses mémoires, c'est peut-être le film dans votre filmographie qui vous a peut-être le plus marqué, un film avec 8 millions de spectateurs en salle. Je crois que beaucoup de cinéastes aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs rêvent d'un score pareil. Hein.
Bah oui, oui, c'était une grosse surprise. Bon, évidemment, quand on fait un film, on ne sait jamais comment ça va se passer. Bon,
le
film prédisait un joli score, mais vous pouvez pas prédire un score comme ça. C'est quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe dessus, et c'est plutôt agréable.
Il y a un bouche à oreille qui a fonctionné, et c'est un film aujourd'hui culte. Et aujourd'hui, ils sont peu nombreux, donc c'est vraiment chouette d'avoir pu nous offrir un film qui reste dans toutes nos mémoires et qui ne vieillit pas. Bruno, c'est un peu pareil avec Les Bronzés, avec cette bande du Splendide qui nous a fait tant rire. On l'a vu évidemment avec Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure. Mais là aussi, ça n'a pas été le succès immédiat en salle pour le coup au départ. Et comment expliquer que en fait, tous ces films sont devenus cultes par la suite avec leur seconde vie, comme quoi il peut y avoir des secondes vies à la télévision, en VOD maintenant. Il y a des secondes vies qui sont incroyables et Les Bronzés en est la preuve.
Ah bah oui, mais c'est parce qu'en fait on les a conçus comme du vin pour que ça vieillisse, et c'est comme du bon vin, plus ça vieillit et meilleur c'est, voilà.
La scène d'anthologie, Bruno, cette scène de crapaud il me semble, hein, c'était dans Les Bronzés font du ski, oui. Si je me souviens bien, dans ce chalet où il fallait leur faire manger n'importe quoi.
Oui.
Il y a dû avoir des fous rires incroyables.
Oui, et puis alors, l'histoire du crapaud, c'est une histoire intéressante, parce que quand on avait écrit la pièce Le Père Noël est une ordure, le personnage de Prescovic amenait une alcool avec le crapaud. Et ensuite, quand on a écrit Les Bronzés font du ski, on n'imaginait pas faire un film avec le Père Noël. Donc on s'est dit, on va remettre le crapaud parce que ça nous fait marrer. Donc on a utilisé le crapaud dans Les Bronzés font du ski. Voilà.
Et vous êtes toujours au théâtre Le Splendide aujourd'hui avec encore des projets, Bruno?
Ah oui, toujours, oui. Tant que j'arrive à marcher, parler, tout ça, je vais continuer à avoir des projets. Donc je m'occupe du Splendide et puis j'ai des projets personnels. Je viens de faire un seul en scène, j'ai écrit un livre, j'ai un projet de pièce là qui me tourne dans la tête, voilà.
Un duo comme Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, Hervé, qu'on revoit en ce moment au cinéma d'ailleurs dans Sexygénaire, le nouveau film de Robin Sykes. C'est un duo au cinéma, mais eux-mêmes, je crois que sont devenus très amis tous les deux, hein.
Ben oui, j'ai créé cette rencontre parce que je tenais absolument à ce que ce soit Patrick Timsit qui joue le rôle dans l'Indien. Et voilà, il y a eu une alchimie qui s'est faite avec Thierry Lhermitte et une complicité, une amitié entre eux. Et je suis très content qu'ils perdurent parce qu'ils sont dans de nombreux films ensemble. Donc je suis très content.
Alors même si ça reposait sur ce duo, c'était un trio quand même, Un Indien dans la ville, avec le personnage de Mimi Sicu qui est encore dans toutes les mémoires. Il a bien grandi aujourd'hui, hein, pour le coup, Mimi Sicu.
Oui, il a bien grandi, il est devenu huissier de justice.
Là, ça rigole plus, là.
Donc il a vraiment très évolué, voilà.
Il n'endort plus tous ceux qui croisent en leur disant fais dodo, mais là par contre là il rigole plus du tout quand il arrive chez toi, quoi. Vaut mieux pas le voir, quoi.
Il envoie des fléchettes toujours, mais peut-être pas les mêmes.
C'est plus les mêmes. Alors vos projets à tous les deux, Bruno. Oui. Donc Seul en scène, on disait.
Oui, Seul en scène, là c'est terminé, je l'ai joué pendant 4 mois à Paris. Ouais. Pour l'instant il est dans un tiroir, peut-être je le ressortirai un jour. Et j'ai un projet de pièce, oui, que je vais probablement coécrire avec Samir Bouadi, hein, mais pour l'instant je suis sur le synopsis, quoi, voilà. Et puis j'ai un livre qui est sorti, je l'ai écrit pendant le confinement, un petit roman, c'est une parodie de roman de gare un peu. Ça s'appelle Un roman de merde.
Très bon livre.
Merci.
S'il le dit, si Hervé le dit, hein.
Mais je vais donner une enveloppe quand même avec un peu d'argent pour qu'il le dise, parce que sinon, voilà.
Il y a un lien entre vous deux, c'est Thierry Lhermitte quand même.
Oui. Oui, bah puis on se connaît depuis un long moment, et puis on a travaillé sur des projets de scénario ensemble, et voilà, quoi. Bon.
La belle histoire continue en tout cas. Hervé, les projets, un prochain film, envie de quoi pour la suite?
Alors, il se trouve que j'ai changé dans ma vie, j'ai changé beaucoup de choses, donc
changé de braquet, comme on dit.
Voilà, et aujourd'hui, oui, j'ai des idées, j'ai des projets aussi bien au théâtre que en série ou un film. J'ai des choses, voilà. Bon, on verra. Mais vous savez, maintenant, j'habite en Provence, donc aujourd'hui peut-être, ou alors demain, voilà.
C'est en tout cas une belle fin. Merci en tout cas, Bruno, merci Hervé d'avoir été avec nous pour cette spéciale des héros du cinéma en tout cas. Et on revient tout de suite depuis les héros du cinéma. Merci à tous les deux.
Ben, merci à vous, et puis j'espère à bientôt, peut-être le prochain, les 40 ans.
On va ah oui, c'est ça, on sera là dans 20 ans. Ah, dans 20 ans, Hervé.
Oui, ah, peut-être avant quand même, parce que...
À tout de suite.
On écoute la télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, spécial festival, on continue, eh bien, avec nos invités exceptionnels aujourd'hui pour cette émission depuis les héros du cinéma et de la télé du Cap d'Agde, avec Bernard Lecoq qui nous a rejoint. Bonjour Bernard.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous.
Bah écoute, non, je suis content. Vraiment, c'est à chaque fois un plaisir de se retrouver là, avec les amis, avec tous les copains, actrices, acteurs et tout ça, et réalisateurs. Enfin bon, c'est des endroits merveilleux. Patrick Georges, il a le chic pour réunir les gens comme ça et donner envie à toute une part de la profession très importante et qui est pas forcément, il n'y a pas forcément toujours des stars immenses, mais il y a vraiment des actrices et des acteurs, entre autres, et plus tous les réalisateurs, scénaristes et tout ça, qui font que les gens sont heureux de les voir, quoi, tu vois. Donc ça, c'est bien.
Nous, ça nous fait adorer du public.
Ben, ça nous fait du bien, nous, quand on passe comme ça, puis qu'on fait des selfies, les gens sont contents parce qu'ils nous ont un peu vu là ou là, et alors donc, voilà, ben, ça nous récompense un peu de nos efforts. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est des conteurs d'histoire, donc voilà, si ça plaît à des gens, c'est ça qui nous satisfait, quoi. Voilà, bon.
Alors, t'as été à l'affiche de Cœur de Rocker.
Oui.
C'est vraiment un film choral, dans tous les sens du terme, que vous allez pouvoir découvrir en DVD et en VOD, parce que le film vient tout juste de sortir. C'est la deuxième vie qui commence pour ce film où tu partages l'affiche avec Mathilde Seigné. Il y a tellement de monde dedans. C'est dingue.
Avec Anne Benoît, avec Andrea Ferréol. C'est vraiment un film tout à fait épatant. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle un feel-good movie, comme on dit. Mais qui est quand même basé voilà sur des sentiments vrais. D'abord parce que la chorale à laquelle on a été intégrés, nous les quelques artistes, acteurs, actrices surtout, eh bien on a tourné avec des gens de la vraie chorale de Dunkerque. Alors donc ça a été tout à fait merveilleux vraiment de se retrouver en osmose avec toute la capacité de toute cette chorale de chanter bien, alors que nous on était pas forcément très brillants. Enfin en tout cas je parle pour nous, enfin pour moi d'ailleurs.
C'est une histoire vraie en plus à la base, hein, cette histoire.
C'est une histoire vraie. Ils ont commencé à chanter des petites chansonnettes un peu gnangnan, et puis t'as coup ils ont eu envie de faire du rock'n'roll, et leurs organisatrices ont dit bah c'est une très bonne idée, et donc ils ont eu un succès considérable, ils font des concerts, ils ont fait un disque, voilà, donc ils sont très très soudés les uns avec les autres, et ils continuent de faire des choses qui enchantent toute la, en tout cas beaucoup dans la région du Nord, quoi, enfin des Hauts-de-France et tout ça comme on dit maintenant. Et puis ils se baladent comme ça à droite et à gauche, et ils ont voilà, ce sont des gens qui sont quand même très très en forme, hein, il y a beaucoup de septuagénaires en particulier, des gens qui sont maintenant à la retraite, mais qui sont heureux, ça les rend heureux, et ça rend heureux le public. Alors donc, voilà.
Thème des projets de troupe, toi évidemment, après avoir été quasiment 30 ans à la tête d'une famille formidable, on imagine ta joie à l'idée de lire un scénario où vous vous retrouvez comme ça avec une pléiade de comédiens tous ensemble. Je sais que ça, tu aimes beaucoup.
Ben, je me sens en sécurité d'une certaine façon, quoi. C'est très très agréable parce que c'est vrai que c'est quand même des petites familles qui se forment. Alors, on a toujours l'impression que c'est superficiel parce qu'après coup, on passe pas forcément ses vacances ensemble, on se revoit pas tous les trois jours. Mais par exemple, des festivals comme celui-ci permet ça, c'est des retrouvailles. On a tourné avec les uns, avec les unes et tout ça, et donc on est toujours très très content de faire ça. Mais quand on fait un travail ensemble, en réalité, c'est ça l'idée, c'est qu'on fait quelque chose en commun. Alors ça c'est bien, et puis quand c'est un peu réussi, comme je crois que c'est le cas pour Cœur de Rocker, alors voilà, c'est encore mieux, on est récompensé de tous côtés, quoi.
Ben oui, DVD, VOD, ne ratez pas ce film, si vous n'avez pas vu au cinéma, c'est le début de sa deuxième vie. Qu'on vous propose, Bernard, tes projets?
Alors les projets, j'ai donc tourné dans une série très intéressante, écrite par Camille de Castelnau, qui était la scénariste du Bureau des Légendes, et là elle a fait une série plus personnelle, familiale je dirais, avec Nicole Garcia, Virginie Efira, Sarah Giraudot et quelques masculins comme Eduardo Doriega et Yannick Landrin et aussi Mehdi Nebout et moi-même. Voilà à peu près. Et alors voilà, ça raconte une histoire de famille prise face à un problème douloureux, grave dans la famille, mais c'est traité avec beaucoup de légèreté, d'intelligence et de talent, je crois. Elle a fait ça très très bien, c'est produit par elle et par Eric Rochant, et ça sortira sur Disney dans un premier temps, et ensuite ça se diffusera un peu partout. Et puis je tourne là avec Pierre Richard un film à Marmande sur aussi une aventure très belle Il y a une association qui s'occupe de rassembler des gens qui ont des difficultés psychologiques, qui sont passés par les hôpitaux, etc. Et puis qui, quand on considère qu'ils sont à peu près, ils ont retrouvé à peu près un état possible pour une vie normale, alors ils sont un peu perdus quand même. Et là, voilà, on regroupe tous ces gens dans cette association qui existe, dans laquelle on tourne avec les vrais gens. Et donc il y a un mélange entre les soignants et les soignés. Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. C'est-à-dire que ça se fait d'une manière très très humaine, enfin vraiment humaniste, je dirais même, et avec beaucoup d'efficacité aussi. Donc voilà, ça c'est un beau projet. J'y retourne à la fin de la semaine pour finir cette belle aventure avec Pierre. Et voilà.
Eh bien écoute, t'es bien occupé, je vois. Comme toujours, tu fourmilles de projets.
Comme une pie surtout, excuse-moi.
Non, mais c'est très bien, au contraire. Mais nous, on aime les invités comme ça, qui ont plein de choses à dire. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est toujours le plaisir avec toi, en tout cas, de partager ces moments. On te retrouve donc dans Cœur de Rocker, en DVD, en VOD. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous et de passer ces quelques minutes pour cette spéciale festival.
Merci Alain, beaucoup. Et merci à tous, vraiment, de nous soutenir tous, les artistes, comme on s'appelle. Parce que c'est absolument essentiel d'avoir des spectateurs bienveillants et qui aiment un peu le travail qu'on fait, quoi. Voilà, merci infiniment.
Allez, on va continuer notre spécial Festival des Héros du cinéma aujourd'hui avec un réalisateur dont vous connaissez tous ses films, L'Empire des Loups, Le Baiser Mortel du Dragon. Chris Naon est notre invité également aujourd'hui. Bonjour Chris.
Bonjour, merci, merci.
Alors, puisqu'on est en Occitanie, Chris, comment t'es tombé dans le cinéma? Comment t'es tombé dans la marmite, en quelques mots déjà?
Par amour du cinéma, voilà, en spectateur qui dit, mais c'est incroyable ce qui se passe, l'émotion que je ressens quand je vois des films, et j'ai envie de participer à ça. C'est vrai que ça paraissait vertigineux, et puis finalement, avec beaucoup d'intention, beaucoup de travail personnel, on arrive à tout, et je dois dire que ça a bien marché. C'est incroyable, mais ouais j'ai pu faire des films, les films que je voulais.
Tu fais partie du cercle très fermé aujourd'hui des réalisateurs français qui ont réussi ce tour de force de réaliser aujourd'hui des films avec des succès internationaux. Et aujourd'hui, ils sont peu nombreux à réussir ça.
Bah là, franchement, oui. C'est vrai que c'était une surprise. Moi, je fais un premier film et puis je me retrouve avec numéro 2 au box-office derrière Steven Spielberg. Quand je regarde sur Internet, je crois pas mes yeux. Finalement, on se retrouve avec le record de l'histoire du cinéma des recettes de films français. Alors, c'est un film international, donc c'est vrai que c'est rare que les films français sortent à l'international. C'était le début. Donc, c'est un petit peu de la triche par rapport aux copains qui font des films français et qui sont tournés en français. Là, c'était tourné en anglais, mais ça reste quand même une production française, et on a atteint des sommets qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc bon, voilà, c'est un rêve, je peux pas dire plus, mais merci.
Ça t'a ouvert les portes du coup outre-Atlantique évidemment aussi.
Oui, c'est vrai que j'ai pu aller un petit peu goûter à ce côté-là du cinéma, Hollywood, côté asiatique, même sud-américain. J'ai passé presque 10 ans en Amérique du Sud. J'ai passé beaucoup d'années en Asie, et puis j'ai travaillé en effet aux États-Unis. Et je reviens en France, voilà, avec vraiment plaisir de redécouvrir et de pouvoir faire des choses dans une terre qui a vraiment besoin d'un cinéma encore. On a vraiment besoin de passion, de cœur et de générosité. Donc c'est ce que j'essaye de faire maintenant avec ce festival, où on met le cinéma au service des gens engagés. Et on va même, dans ce festival, aider tout au long de l'année les personnes qui veulent se lancer et qui manquent furieusement de lumière. Et voilà, on vient avec la caméra, le matériel, et on les illumine.
Alors, le Festival des Héros Silencieux, il y a une partie cinéma dès demain jusqu'à jeudi, mais pas que, hein, c'est pas consacré uniquement au cinéma, il y a d'autres parties, hein, dans ce festival.
Alors, c'est vrai que c'est un festival qui vient se pluguer sur le Festival 2030, Montpellier, qui fait toute une série d'événements tout au long de la semaine, avec différents endroits, qui sont autant sur l'environnement que sur le social, vraiment sur l'émerveillement. Il y a toute une démarche sur quelques années d'arriver à faire changer les choses, d'aller vers une transition, d'aller vers une évolution, d'aller vers peut-être plus d'équilibre. Voilà, on pousse pas les gens, mais je pense que en ce moment il y a beaucoup d'envie et qu'il faut les accompagner, ces envies, en profiter et participer, donner chacun ce qu'on a à donner, nos talents.
Pourquoi dans le sud justement?
dans le sud parce que c'est là que je suis venu m'installer. Donc je suis installé là en ce moment vers Alès, les Cévennes, et puis je descends beaucoup à Montpellier où je travaille aussi sur la série Ainsi grand soleil qui avec
on voit ton nom au générique. D'ailleurs, on était sur le tournage mercredi dernier d'Ainsi grand soleil, mais on voit toujours souvent ton nom au générique.
Ben c'est vrai que voilà, c'est vraiment une famille. Je viens, j'y suis accueilli, on y travaille avec beaucoup de liberté artistique. C'est un espace de création, un espace de rencontre avec des jeunes acteurs qui viennent, qui se défendent comme ils peuvent pour faire du bon travail, avec une équipe artistique qui a vraiment envie de faire évoluer les choses. Et j'ai eu la chance dans cette série de montrer qu'on pouvait sur une quotidienne, sur un format quotidien, apporter une texture fiction, une texture cinéma. Et je pense que le pari a été réussi.
Avec quelque chose en plus de visuellement très beau et peut-être qu'effectivement Ainsi grand soleil, vous êtes nombreux, il y a 4 équipes qui tournent quasiment en permanence sur cette série, ça vous permet de faire tourner vos équipes moins vite et moins de minutes utiles chacune, et qui vous permet peut-être de soigner peut-être encore plus visuellement pour s'approcher et aujourd'hui ne plus voir de différence avec une fiction de prime time finalement.
Oui, alors bon, on n'est pas dans la même catégorie, mais quand même c'est vrai que il y a eu un travail, un savoir-faire de production qui a fait qu'on se retrouve maintenant avec 8 réalisateurs où on tourne, 4 qui préparent, 4 qui tournent. On est plus de 250 personnes à être là en permanence, à préparer, à accompagner, sans parler des équipes d'écriture à Paris. Donc c'est une belle machine de cinéma et voilà, avec des beaux sujets sociaux où on peut aussi traiter du quotidien, de l'actualité. Et je pense qu'il y a de beaux messages aussi.
On parlera d'Ainsi grand soleil lundi prochain d'ailleurs, le 3 juillet dans Chuton Écoute la télé, puisqu'il y a une grande soirée spéciale qui vous attend sur France 2 pour attraper un peu le retard accumulé suite aux déprogrammations, et c'est pas moins de 6 épisodes d'un coup que vous verrez lors d'une soirée exceptionnelle la semaine prochaine. Chris, quelles sont les plus grandes stars qui ont tourné sous ta houlette? On peut évoquer Jet Li, mais il y en a tellement.
Ben c'est vrai, Jean Reno, Jet Li, Chiqui Carrillo, Bridget Fonda, il y a beaucoup, il y a eu des films qui ont été préparés, Scarlett Johansson, Ryan Reynolds, et puis peut-être qu'ils ne sont pas faits parce que...
Ça va, tu m'as calmé, c'est bon.
Je t'en prie, mais... mais bon, on dirait toujours des noms du Kevin Costner. C'est vraiment un plaisir de gamin de se retrouver face à ces gens-là. C'est vrai que c'est très impressionnant de les diriger, de les voir qui t'écoutent. Ben voilà, c'est un cadeau de la vie. Je pense que j'ai pas de mots. C'est énorme.
Merci beaucoup en tout cas Chris d'avoir passé ces quelques minutes avec nous dans cette spéciale festival. On te donne rendez-vous donc demain au cinéma Utopia, ça sera du côté de Montpellier pour le festival des héros silencieux. Vous allez pouvoir venir découvrir quelques films en tout cas pendant ces 3 jours. Merci beaucoup et on te retrouve évidemment pour Ainsi grand soleil aussi à la réalisation aux côtés d'Axel Lafont et de tout plein d'autres réalisateurs de talent sur cette série. À très bientôt.
Merci à toi, à très bientôt, on vous attend à l'Utopia.
Attitude.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
C'est son grand retour et justement, eh bien, quel plaisir de retrouver Juliette Trezanini dans Chut, on écoute la télé. Depuis vendredi, Sandrine Lazari is back dans Demain nous appartient. Quel plaisir de retrouver les plateaux de 7, Juliette.
Ah là là, un très très grand plaisir et merci Alain de m'inviter à ton émission.
Écoute, ça doit être la 3e ou 4e fois de l'année, tu es une invitée quasi permanente maintenant. Moi, on aime bien t'avoir. Et surtout quand ce retour, tant attendu par les fans de la série, enfin arrive. Surtout que tu reviens pas toute seule, en plus.
Il paraît que je reviendrai avec une certaine Morgane. Vous savez qui c'est, vous, Morgane?
Marie-Catrix. Mais ouais, non, mais c'est génial. Comment ça s'est passé, cette histoire?
Bah, c'était début mars. J'étais tranquillement... chez moi à Paris, je venais d'inscrire mon fils à une colo à 7 et je pleurais en me disant ça y est, il est grand, il va partir loin de moi. Et au moment où je signe l'admission pour la colonie de vacances à 7, mon agent m'appelle en me disant est-ce que tu veux revenir dans Demain nous appartient? Ils viennent de m'appeler et ça tombait pendant les dates de vacances de mon fils et j'ai dit d'accord. Voilà. Ça, je pouvais l'espionner en même temps que je tournais, c'était parfait.
Bon, bref, Sandrine et Morgane sont de retour de Guadeloupe.
Elles sont de retour de Guadeloupe et vraiment c'est une très belle intrigue, c'est vraiment pas comme ça et c'est pas juste pour se bécoter sur la plage. Il va y avoir du soap, il va y avoir des larmes, il va y avoir des rires, il va y avoir de la police, il va y avoir une enquête, vraiment ça va être très mouvementé on va dire ces vacances.
Oui, c'est un retour qui va pas être de tout repos.
Non, vraiment pas. On a tourné pendant un mois et demi, 6 ou 7 séquences par jour. Donc je pense que ça va vous laisser le temps de nous revoir bien. sous j'ai envie de dire sous toutes les coutures, c'est plus sous toutes les émotions, et avec un couple, ça je peux le dire, qui va pas très bien, qui a pas forcément réussi à se retrouver en Guadeloupe après avoir fui Sète pour oublier le drame du frère de Morgane tué par elle-même. On était parti en Guadeloupe, je le rappelle pour ceux qui nous avaient pas suivis, et en fait ça va pas très bien entre nous et on sait pas pourquoi. Sandrine est très stressée, on sait pas pourquoi. Elle regarde sa montre, elle regarde ses messages, elle écoute pas vraiment sa meilleure amie Chloé, elle écoute pas vraiment sa sœur, et elle arrête pas de fuir. Que s'est-il passé?
Et oui, et là c'est ce qu'on va suivre évidemment pendant ces aventures, pendant un mois et demi. Et franchement, ce retour était tellement attendu par les fans, ça fait quasiment 2 ans que vous êtes parti en Guadeloupe dans la série. Il n'y a pas un jour qui a passé, je suis sûr, sans qu'on te demande justement quand c'est que tu reviens.
C'était fou parce qu'au début j'avais vraiment des dizaines et des dizaines de messages de Facebook, Instagram. J'étais gênée parce que je disais aux gens, mais vous savez, vous inquiétez pas, je vous le dirai quand je reviens, etc. Bon, après ça s'est certes un peu estompé, mais vraiment c'était tellement récurrent. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis 2 ans, c'est quand est-ce que vous revenez dans la série. J'avais beau faire d'autres projets, d'autres téléfilms, travailler avec des gens incroyables, du cinéma, d'autres chaînes. Non, c'était vraiment quand est-ce que vous revenez dans la série. Donc voilà, ça y est, maintenant je peux le dire, je suis revenue depuis vendredi et ça va durer un petit moment, donc profitez-en.
J'imagine les retrouver avec Solène, même si vous êtes jamais quittés en quelque sorte dans la vraie vie.
C'est ça, en fait, nous, c'était pas si bizarre parce qu'on s'est jamais quitté, mais bon, on s'est quand même vu tous les soirs, tous les jours. On a retrouvé nos petites habitudes de s'attendre le matin pour les pick-up, de travailler ensemble, de rentrer ensemble, de dîner ensemble. Donc ça n'a pas changé. Marie, c'était pareil, on avait pris des appartements l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir répéter, entre guillemets, le soir en buvant un petit coup. Et c'était super. Et puis vraiment deux autres personnes dans l'arche, de nouveaux personnages qui vont venir, on va dire, pimenter l'intrigue.
Bon, on va découvrir ça en tout cas. Donc Sandrine recèlerait donc des secrets, n'est pas revenue comme ça la tête vide depuis la Guadeloupe.
Sandrine recèlerait des secrets, oui, elle a une petite part d'ombre à montrer. Alors au début je me disais, est-ce que ça va entacher l'amour que les téléspectateurs ont pour ce personnage qui est assez irréprochable, on va dire, depuis plusieurs années. Et en fait c'est ok, parce que il faut, de toute façon, pour qu'il se passe des choses, il faut du négatif, il faut des rebondissements, il faut des petites erreurs dans la vie, et on apprend toujours de ses erreurs et on renaît de ses cendres. Donc oui, Sandrine renaît de ses cendres et va traverser une période un peu houleuse, mais ça va pas si mal se terminer que ça, on va dire.
C'est parti pour jusqu'au 15 août avec la famille Lazari qui sera au cœur des intrigues cet été, Juliette. Donc là, j'imagine qu'après, elles repartent en Guadeloupe. Enfin, peut-être, on sait pas. Est-ce qu'elles repartent toutes les deux? Est-ce qu'une seule repartira? Est-ce qu'elles en sortiront toutes les deux indemnes? C'est toutes les questions qu'on va se poser tout au long de cet été. En tout cas, après cette intrigue, est-ce que toi, t'as envie de revenir une autre fois? Est-ce que ça t'a redonné envie, en tout cas, d'y jouer régulièrement?
Oui, comme je le dis, c'est comme une famille. Donc on a toujours envie de revenir. Moi, je suis super heureuse quand je suis dans le sud, super heureuse quand je suis avec ces gens-là avec lesquels j'ai grandi finalement, donc évidemment j'ai envie de revenir. Évidemment, s'il y a un rôle de proviseur qui se libère, je serais ravie de reprendre mon poste. Puis ils le savent, hein, je pense que tout le monde le sait, donc après c'est la balle est dans leur camp, c'est en fonction des intrigues. Est-ce que ça peut être une fois par an comme ce que je viens de faire, c'est super aussi, ou en plus récurrent, auquel cas on en discutera je pense ensemble avec la production. Et puis je pense qu'ils vont attendre aussi les répercussions de cette intrigue-là sur les téléspectateurs, c'est sûr.
Tes projets, pour terminer? T'es en plein tournage, je crois, en ce moment.
Je suis en plein tournage de ma réalisatrice, j'ai envie de dire fétiche, mais parce qu'elle m'a fait tourner 3 fois cette année. Alors voilà, c'est une collaboration fidèle. Stéphanie Pilonka, qui est talentueuse comme jamais et qui m'a encore fait confiance sur un rôle très, très, très loin de moi, sur une enquête à la une, enquête parallèle, avec des comédiens incroyables. Là, je tourne à Lyon, donc en ce moment, je joue le rôle d'une tatoueuse qui va donner des indices pour aider les enquêteurs à mener l'enquête.
Vous allez voir encore un look improbable après celui qu'elle t'avait fait dans un autre film.
Voilà, oui, c'est avec Florence Porcel et Jean-Baptiste. Je sais plus son nom de famille. Il est vraiment incroyable. Il joue dans nos chers voisins.
Chenmerdine.
Voilà, ils sont formidables. Ce binôme est formidable. Et il y a des acteurs incroyables. Enfin, vraiment une distribution de dingue. Donc, je crois que ça sortira probablement à l'automne.
Merci beaucoup, Juliette.
Merci à toi, Alain.
du lundi au vendredi 19h10. Demain nous appartient le grand retour des Dazari. Eh bien c'est depuis vendredi et c'est sur TF1 que ça se passe. À très vite.
À très vite, merci beaucoup.
Spécial Festival Héros du cinéma aujourd'hui en ce lundi 26 juin et vendredi. C'est l'événement sur France 2, le dernier épisode de la saison 4 de Tropic Criminel. Et il était avec nous il y a quelques semaines et il est avec nous ici en vrai au Cap d'Agde. C'est Benjamin Douba Paris qui est là. Bonjour Benjamin.
Salut Alain, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien, entre deux scènes d'ici tout commence et des allers-retours en Martinique. Eh bien tu es là avec nous aujourd'hui pour terminer cette belle saison de Tropic Criminel. Mais quel succès incroyable, on en parlait il y a trois semaines, mais franchement c'est génial de voir ça.
Exact, c'est un peu la course entre Ici tout commence et Tropic Criminel et Rendez-vous avec le crime, une autre série que je fais. Mais c'est un vrai bonheur toujours d'aller tourner en Martinique, d'aller à la rencontre des Martiniquais, de leurs problématiques aussi, parce que chaque épisode se passe aussi dans un lieu emblématique de la Martinique. Et cette année encore, les auteurs nous ont régalé avec des intrigues assez dingues. Et mon personnage Lucas, il pète un câble, hein, totalement, dans la saison qui est en train de diffuser, là, la saison 4. Voilà, il s'est pris des balles la saison précédente, il revient après une petite retraite au Canada et vous allez voir qu'il a totalement pété un câble et ça va être assez intéressant en tout cas à la fin de cette saison.
Bon, et puis si tout commence, c'est l'événement aussi, puisque ça y est, on arrive à la fameuse intrigue de ce déraillement de train avec ce, on va dire, ce qui devait être un événement culinaire sur rail qui va tourner en pugilat, hein, on peut le dire comme ça, dont ton personnage ne ressortira forcément pas forcément indemne.
Exact, cette arche catastrophe, elle était tant attendue pour la série, mais aussi pour moi, Benjamin, parce que je joue voilà Solal. Solal, ça va être sa première arche catastrophe, et en fait, ça va être un moment très important pour la série, mais aussi pour lui. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. J'ai l'impression que si on croit un peu au rite initiatique pour voilà devenir un homme, le rite initiatique pour Solal, ça va être cet accident de train. Après cet accident de train, Solal sera un homme accompli qui aura déjà accepté de peut-être sacrifier sa vie ou de se blesser par amour ou pour ses amis, vous allez voir. En tout cas, il va se passer beaucoup de choses et cette arche catastrophe, elle est clé pour la suite de l'histoire.
Ça fait du bien de sortir des studios, justement, de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un cadeau pour toi en tant que comédien.
Ouais, c'est une nourriture assez extraordinaire parce qu'en fait, nous, alors contrairement à, par exemple, Demain nous appartient ou d'autres séries quotidiennes, on a la chance de tourner beaucoup en décor naturel. Voilà, au château, au Marais Salant, effectivement dans le château ils ont créé des studios, un commissariat, etc. Mais on est beaucoup en décor naturel là, et c'est assez rare, on a tourné en studio, sur fond vert, dans un vrai train, mais le train était dans un studio. On a tourné dans les Cévennes, dans des décors qui étaient assez magnifiques. Donc c'est une chance folle d'avoir pu tourner là-bas. Et encore plus du fait de tourner en studio plutôt qu'en décor naturel, ce qui a changé c'est le rythme. Le rythme de tournage, on a eu le temps de réfléchir à nos intentions. En fait, on a tourné plusieurs semaines pour cette arche catastrophe et en fait il y a que deux jours qui vont être diffusés au final. Vous voyez, donc vous imaginez bien le temps qu'on a passé à jouer cette arche. C'est une arche qui est très différente des autres. Donc on a l'habitude de faire des scènes en cuisine, des scènes chorales, des scènes où on écoute un prof, machin. Là c'est une arche où il va avoir des blessés, il va avoir des histoires d'amour tragiques, il va avoir des sauvetages héroïques. Et donc effectivement c'est très différent de tout ce qui a pu être diffusé avant sur la série. Donc je suis très heureux d'avoir pu y participer et j'espère que cela le participera à plein d'autres arches catastrophes, ça pourrait être sympa.
Donc là maintenant que le train a déraillé jeudi vendredi dernier, on va voir à partir de ce soir les répercussions de ce déraillement sur les personnages, comment ils vont s'en sortir et puis comment ça va changer leur destin peut-être à jamais pour certains.
Exact, bah comme vous avez pu le voir, Solal s'est sacrifié, entre autres, hein, c'est pas le seul, mais il s'est sacrifié aussi, il a risqué sa vie pour sauver Rose, parce que en plus, peut-être du fait d'avoir des sentiments pour elle, il a beaucoup de respect, d'admiration pour cette femme qui est très courageuse et talentueuse, parce qu'elle écrit un livre extraordinaire sur les chefs de l'école. Les répercussions, vous allez le voir, elles seront importantes. Il y a quelque chose qui va changer dans le regard de Rose Latour sur Solal Fayet. Il y a quelque chose qui va changer dans le regard de Rose aussi sur son mariage. Je ne sais pas si c'est l'événement déclencheur, mais en tout cas, ça va faire partie des causes qui vont créer un bouleversement important pour la suite de son mariage.
Et ça va les lier, du coup, tous les deux.
On sera liés, bien sûr.
Bon, on va découvrir ça, on a hâte en tout cas de voir la suite de cet événement voilà sur les épisodes de jeudi et vendredi. Voilà, vous avez pu suivre cette intrigue catastrophe qui va se poursuivre évidemment pendant plusieurs jours sur les répercussions de cet accident de train que vous voyez dans Ici tout commence. Merci en tout cas, on te retrouve vendredi, ça sera 21h10 dans le dernier épisode de Tropic Criminel, bientôt dans Rendez-vous avec le crime et puis bientôt de retour dans Chut on écoute la télé, mon cher Benjamin.
Avec plaisir, j'espère que vous me réinviterez bientôt.
Ah, mais très très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va tout de suite écouter un petit extrait. Tiens, c'est parti.
Victime s'appelle Tessa Honoré, 21 ans. Aurélien la connaissait puisqu'elle fait partie de son club de MMA.
Ah oui, c'est là où il aide les jeunes de son quartier.
Exactement.
Oui, on en avait parlé. Oui. Et il est où d'ailleurs ?
À l'intérieur, avec les jeunes qui ont découvert le corps. Ils sont tous sous le choc, ils la connaissaient tous.
Bonjour Phil.
Comment non ?
On sait comment elle est morte ?
Elle a été battue à mort.
Allez les amis, on marque une pause depuis les routes du cinéma, depuis le Cap d'Agde. On revient dans un instant, à tout de suite.
On écoute la télé, le talk show radio. Suite, on écoute la télé, spécial festival.
On continue notre spécial festival, les héros du cinéma avec Boudère qui est notre invité. On va parler du film Le Grand Cirque qui a été diffusé justement pendant ce festival et qui a connu un succès incroyable avec Boudère aux manettes. Non seulement aux manettes, à la réalisation, première réalisation. Et alors, quel film brillant, je vous conseille vraiment, si vous avez raté la sortie ciné, d'aller voir en DVD et en VOD.
Bah oui, ça me tenait à cœur de faire ce film-là, qui raconte l'histoire d'un mec qui devient clown pour faire rire les enfants dans les hôpitaux. Donc voilà, c'était mon clin d'œil aussi à tous ces clowns qui bénévolement donnent de leur temps, donnent de leur énergie pour aller faire rire ces petits gamins qui ont une vie pas facile. C'était aussi un clin d'œil pour remercier tout le personnel hospitalier qui travaille à l'hôpital. J'en ai fait un film.
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que justement on y raconte l'histoire de Momo qui va se découvrir une passion pour clownesque, on va dire, une passion clownesque. Et t'as été des deux bords, toi. Exactement. Justement.
Exactement, je suis arrivé en France, j'étais tout bébé, j'avais une bronchiolite aiguë, j'avais un asthme très prononcé. Donc je suis arrivé en France et je suis resté pendant 6 ans hospitalisé à l'hôpital Necker. Enfin 6 ans pas consécutifs, hein, je faisais des entrées et des sorties. Et j'ai découvert, j'ai rencontré ces clowns-là durant mon hospitalisation. Et bien plus tard, quand je suis devenu Boudère comédien, je me suis dit, tiens, faut pas oublier d'où on vient, moi je viens de l'hôpital Necker. Donc j'y suis retourné pour user de ma notoriété, pour rire avec les enfants. J'ai redécouvert ces clowns-là et je m'amusais avec eux auprès des enfants. Je me disais, si un jour je dois écrire ou réaliser un film, ça serait sur ce sujet-là. Et puis voilà, et j'ai eu la chance de le faire, quoi.
Alors, même si c'est pas des enfants malades hein, qui ont été pris comme comédiens, parce que évidemment c'est très très compliqué au niveau assurance et santé des fois, mais tous les comédiens que tu as pris, ce ne sont que des jeunes comédiens dont c'est le premier rôle et qui n'ont jamais tourné. Ils sont incroyables. Le casting est une réussite à 100%.
Ouais, j'ai voulu faire découvrir, que ce soit pour les enfants, comme pour le rôle de Michel, comme pour le rôle de l'infirmière. J'ai voulu vraiment prendre des acteurs et des actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai voulu donner la chance vraiment à une nouvelle vague de comédiens. Et les enfants que j'ai pris, ces enfants qui n'ont jamais tourné dans un film. Mais ça, c'était voulu parce que je voulais garder cette pétillance, garder cette innocence.
Ils sont d'un naturel déconcertant.
Voilà, j'ai voulu garder ce naturel-là. Je leur disais, n'allez pas me chercher des émotions, soyez vous-même. Juste soyez vous-même. Oubliez la caméra. On a beaucoup répété, on a beaucoup travaillé. Eux, ils ont été fiers de ce qu'ils ont fait. Moi, je suis fier de ce qu'ils ont fait.
Alors, il y a beaucoup de moments de comédie, mais aussi des moments hyper émouvants. Qu'avec Momo, tu y as mis beaucoup de toi dans Momo, évidemment.
Ouais, bien sûr, parce que bon, on raconte quand même l'histoire d'un mec qui est dans un hôpital avec des enfants qui sont hospitalisés, qui sont malades. Donc forcément, si j'avais mis que du rire, ça aurait pas été bien. Si j'avais mis que de l'émotion, ça aurait pas été bien. J'ai mis
Il fallait trouver l'équilibre.
Il fallait mettre un peu des deux. Et parce que dans les hôpitaux, il y a de l'émotion, il y a aussi du rire. Les enfants rient. Les enfants qui sont hospitalisés ne veulent pas qu'on les regarde avec de la pitié, ni avec des yeux des yeux de pitié, quoi. Ce sont des enfants avant tout.
Et qui sont en vie, ne l'oublions jamais.
Exactement, et malgré qu'ils soient malades, ce sont d'abord des enfants. Ça, c'était vraiment dans l'expérience que j'ai connue en allant les côtoyer. Ils voulaient que je leur raconte des blagues, que je rigole et que je fasse le con, pas que je pleure à côté d'eux, ni que je leur demande qu'est-ce qu'ils ont, parce que c'est pas mon rôle.
On va écouter un extrait, Le Grand Cirque, ça vient de sortir en DVD, en VOD, le très beau film de Boudère, si vous l'avez raté, sur sa fenêtre cinéma. Mais c'est une nouvelle vie qui commence pour ce film, et on revient juste après avec toi, Boudère.
Bonjour, quand j'étais petit, j'étais super fort au foot.
Ah ouais, je faisais le ballon.
Ils m'ont pas dit que c'était des petits bâtards.
Je ne valide pas ce choix.
Alors maintenant, je vais te montrer mon chez-moi. C'est pas que du maquillage, c'est ta signature. Voilà. Oublie de t'affaire des enfants malades. Fonce.
Bonjour les enfants.
avez pas vu l'infirmière? Elle cherche partout.
Allez, de retour avec Boudère. Alors, on parle du film Le Grand Cirque qui a été présenté, qui a eu un succès assez incroyable. T'as vu cette popularité auprès du public, et notamment ici au Cap d'Agde, était assez hallucinante. Tu as signé et tu as fait des photos avec toutes les personnes qui voulaient. Tu as fait preuve d'une patience d'ange à toute épreuve.
Bah, je dis souvent, sans le public, l'artiste n'est rien. Nous sommes très contents quand ils viennent voir nos films, nos spectacles, nos pièces de théâtre. Et la meilleure façon de les remercier et de leur rendre l'appareil, c'est de prendre un peu de son temps et prendre du temps pour faire des photos.
Et tu fais ça à chaque fin de spectacle aussi. Moi, je spécifie, j'en ai été témoin.
Oui, exactement. Mais parce que c'est normal, je trouve. Parce que c'est ce qu'on... Comment leur rendre leur gentillesse et comment les remercier d'être venus voir notre travail, si ce n'est que d'abord faire un travail qui est bien et secondo, donner de son temps pour partager avec eux ce moment de photo, parce que c'est un souvenir, c'est beau et moi ça me fait plaisir.
Quand on fait un film avec des jeunes comédiens comme ça, avec des comédiens dans ses premiers rôles, est-ce que des fois t'as laissé des moments d'impro, est-ce que t'as eu des moments de grâce derrière la caméra que t'as pu voir et puis que t'as laissé tourner finalement?
Bah oui, à un moment donné je les ai filmés, ils savaient pas qu'ils étaient filmés. C'est pour avoir de la matière et pour être le plus naturel possible. Donc dans le film il y a des moments où on dit des choses et que les enfants ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Alors bien sûr que c'est pas mal cadré, c'est pas mal bien encadré aussi, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais il y a eu des moments d'improvisation où je les ai laissés dire ce qu'ils voulaient, ce qui leur passait par la tête.
C'est ça qui est chouette. Et puis ça se sent vraiment. Il y a eu des moments de rire aussi, des moments de fou rire où il a fallu quand même rester un peu concentré.
Ouais, il y a eu beaucoup de fou rire, beaucoup de rire, beaucoup d'amusement. J'étais plus perturbé et perturbateur que eux. Les enfants étaient plus cool. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants, des fois ils me disaient, non mais attends Boudère, ah non mais on se calme, on va tourner. C'était marrant parce que j'avais créé cette complicité avec eux. Et l'équipe de tournage était juste magnifique. C'est un film que j'ai tourné en Belgique. Et l'équipe de tournage de Belgique, je tournais avec des Belges. D'une patience et d'un professionnalisme vraiment énorme. Et donc voilà, j'ai découvert plein de choses en réalisant ce film.
On saluera ta co-réalisatrice aussi, co-auteur.
Bien sûr, co-auteur et co-réalisatrice, sans qui le film n'aurait peut-être pas existé, qui s'appelle Gaël Fazerana, pour qui aussi c'était son premier film. On se soutenait l'un à l'autre, ça nous a donné des ailes et ça nous a donné envie de retravailler ensemble et de refaire un autre film ensemble qui est déjà en préparation.
Ah ouais, ça y est, deuxième film, ça t'a donné des envies de continuer justement la réal aussi?
Oui, parce que justement, j'avais plein d'idées de films. Et il fallait juste en placer un premier. Et les producteurs m'ont fait confiance. Et j'aurais proposé ma deuxième idée de film. Ils sont OK. Deuxième film que je travaille avec Gaël. Et on va kiffer, quoi, le co-réaliser et l'écrire ensemble.
Et puis cet été, tu tournes pour TF1. Là, dans une dizaine de jours, hein, le 6 juillet, tu vas tourner un téléfilm hein, pour TF1, un unitaire.
Exactement, un unitaire, un téléfilm qui s'appelle Le Nounou. Et voilà, je suis très content de le faire.
Bon, eh bien écoute Boudère, en tout cas merci d'avoir passé ce moment spécial festival avec nous. Tu reviens à la rentrée puisque tu as un autre très beau projet de théâtre qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, dont on parlera très largement à la rentrée parce que tu vas venir avec quasiment toute ta troupe. Avec Rebecca Hampton, Audrey Garcia, avec Amélie Robert, avec Thomas Hoff. Ils seront tous là avec toi autour, donc on vous attend tous après cet été et on va vous souhaiter à tous de bonnes vacances en tout cas.
Merci à vous et puis voilà, vive la culture, vive le théâtre et le cinéma. Voilà,
merci Boudère, à très vite.
Merci à toi.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, on aura le plaisir de recevoir Arnaud Viard et Marianne Denicourt pour la sortie du film Melville Chloé. Et moi, on aura le plaisir de recevoir des héros de vos séries quotidiennes aussi et plein d'autres surprises.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.